plus, il est 18h.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Lille et vous écoutez le Villeneuve Mag, l'émission que vous retrouverez chaque mercredi lors de ce mois de juin et qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve-d'Ascq et ses environs. Aujourd'hui, dans votre magazine, nous vous proposons deux reportages sur des événements qui se dérouleront à Villeneuve-d'Ascq ce week-end. Une semaine qui s'annonce sportive avec tout d'abord une journée d'initiation au handball pour les enfants avec le club du Lille Métropole Handball Club Villeneuve-d'Ascq, mais aussi avec une course solidaire en soutien à l'association Extraordinaire. Commençons ce magazine avec du handball, car ce samedi, une journée d'initiation au handball pour les enfants avec le club du Lille Métropole Handball Club Villeneuve-d'Ascq aura lieu. Il ne s'agit pas d'une première fois pour le club actuellement en 3e division française qui cherche, lors de chacun de ces événements, à donner l'envie pour les plus jeunes de se lancer dans le handball. Pour discuter plus en profondeur de cela, nous nous sommes rendus à la salle Marcel Cerdan qui accueillera cette journée pour y rencontrer Philippe Delecourt, le président du club, afin de découvrir davantage la politique du club concernant les jeunes du club, mais aussi pour discuter d'une certaine féminisation de ce sport. Enfin, nous avons aussi pu discuter des potentielles problématiques et enjeux qui peuvent toucher le club dans l'organisation de ces journées. Bonjour Monsieur Philippe Delecourt, on est ici à la salle Marcel Cerdan car ce samedi 14 juin, on va réaliser une journée d'initiation au handball pour les jeunes. Et la question, c'est un peu, quel est l'objectif derrière cette journée?
L'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir aux jeunes le handball. On le fait déjà dans les écoles un peu, mais c'est surtout de les faire aussi découvrir. Et c'est surtout, avant tout, parce que les places sont chères. On n'a pas énormément de places, puisque la problématique d'une salle, on a trois salles sur la mairie de Villeneuve. On a ici Marcel Cerdan, qui est notre bateau, notre vaisseau mère, et après on a deux autres salles qui sont la housse et une autre salle sur la cousinerie qui est Molière, la salle Molière. Donc on travaille sur trois salles. On a plus de 500 gamins ici, on a 480 gamins. On est premier club des Hauts-de-France, jusque Paris. On est même au-delà de Dunkerque. C'est-à-dire qu'on dépasse Dunkerque. On est premier club des Hauts-de-France en matière de licenciés. Donc la problématique, c'est les créneaux. Parce qu'on ne peut pas offrir à des jeunes, par exemple, il y a quand même l'école. Là, la salle est vide parce qu'il n'y a pas de... Les gamins sont en classe. Donc ça démarre vers 17h, 17h30, mais on ne peut pas aller au-delà de 23h. Après, c'est pas possible. Donc comme c'est des séances qui durent 1h30, donc là, on fait une journée d'initiation pour justement sélectionner les gamins qui ont vraiment l'envie, quoi, qui ne vont pas arrêter en cours de saison. Voilà. Mais on est avant tout là pour faire découvrir le sport. Et c'est un sport collectif. Hein, donc ça, voilà.
Et justement, vous faites des journées d'initiation depuis... Enfin, vous en faites plusieurs. Est-ce que vous percevez une évolution dans l'attirance ou dans l'intérêt des jeunes pour ce sport qui est le handball, justement?
Alors, aujourd'hui, le handball se féminise. On est vers une féminisation assez importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un sport masculin, c'est un sport avec d'énormes valeurs, des valeurs humaines, c'est un sport collectif, mais aujourd'hui on est en féminisation, c'est-à-dire que aujourd'hui on se rend compte que quand on voit par exemple sur la région, vous avez l'homme qui joue en D2, vous avez Sambre Avenois qui vient de descendre, qui était en D1, qui descend en D2, et vous avez Saint-Amand qui joue sur le haut niveau. Donc sur le haut niveau, on a quasiment trois clubs, quoi. On est vraiment sur une partie de sport féminin qui est important. Nous ici, on est en N1, National 1, et après on a N1, la N1 qui est sur Dunkerque, qui est sur Hasbrouck, pardon, et après on a la D1 qui est sur Dunkerque. Voilà. Aujourd'hui, donc, on essaie de faire découvrir. Il y a l'après-JO aussi. Hein. Il y a eu les Jeux Olympiques l'année dernière qui ont aussi... l'année dernière, on a pris 13 ou 15% de plus. Mais, je répète, c'est la formation des encadrants, parce que ça c'est très important. On peut pas, voilà, c'est un sport collectif mais avec des stratégies, des donc c'est pas un sport où on fait que du physique. Il y a de la stratégie, il y a comment se placer, il y a comment c'est un sport très stratège. Donc il faut des compétences au niveau formation. Donc ici une année dernière, nous pour on a mis quasiment 110 000 euros dans la formation de nos alternants. On a 5 alternants ici. On a mis quasiment 110 000 euros dans la formation des jeunes pour justement offrir à nos équipes et à nos gamins des gens avec des compétences. Et justement, après, reformer les entraîneurs qui étaient déjà en place. Mais il y a deux facteurs, les créneaux de salle et les entraîneurs, les encadrants.
Vous parlez justement d'une féminisation du handball. Est-ce que c'est vraiment spécialisé sur le handball ou c'est plus sur le sport en global que la féminisation augmente au fil des années ?
Je pense que la féminisation, aujourd'hui, elle avait beaucoup de retard. On est en train de rattraper le retard. Et quand on observe un peu autour de nous, on a ici à Villeneuve le rugby féminin qui joue sur le haut niveau. On a le SBVE qui joue au basket qui est sur le haut niveau. Donc c'est deux sports féminins, quoi. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'on est en train de rattraper le temps perdu. Et par contre, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le féminin est bien en place et le masculin court derrière, quoi. Mais aujourd'hui, sur le haut niveau, nous, sur Villeneuve, on voit bien que le féminin est sur le haut niveau.
Et quels sont les grands défis, s'il y en a, auxquels vous êtes confrontés pour attirer des nouveaux licenciés chaque année ?
Alors, c'est pas le défi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je reviens sur ce que je disais, la formation et les encadrants et les créneaux de salle. Donc, on peut pas aller au-delà de ce qu'on a en capacité. Là, c'est pour ça qu'il faudra vraiment qu'on regarde un petit peu, parce qu'on est vraiment, nous, ici, presque au taquet. On a 3 équipes par tranche d'âge. Hein, puisque on a du baby, du mini-hand, et après on passe moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17, moins de 18, et après on passe en senior. Donc sur ces créneaux-là, on est quasiment à 3 équipes partout. Là, on ouvre, nous, à partir de on a ouvert ici là, la féminisation, c'est-à-dire qu'on va faire du 11, du 13, du 15 et du 17 en féminine. Chose qu'avant, on avait une entente sur d'autres villes où on allait sur l'homme, où on envoyait les filles sur l'homme. Et là, il y a une volonté municipale et des élus, des adjoints de garder les féminines et de garder la féminisation ici sur Villeneuve. Donc là, on a ouvert et on commence à ouvrir aux filles. Voilà.
Et dans la formation, lorsque vous recrutez des nouveaux licenciés, dans la formation, comment vous les accompagnez au fil des jours, que ce soit sur le terrain, mais aussi hors du terrain, etc.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le handball, ça s'apprend, donc et il y a les règles. Donc nous, on a déjà ici une école d'arbitrage, hein, c'est-à-dire que chaque club sportif est obligé d'avoir ses arbitres. Donc on a nos jeunes avec Joël, qui est un très très ancien du club, qui lui gère toute la partie arbitrage, et les jeunes sur la partie arbitrage. Et après, l'accompagnement, il est fait par la Ligue, le comité, pour former les alternants et former aussi également les entraîneurs.
Et on voit, justement, vous parlez de la féminisation du handball, on voit qu'il y a quand même une certaine attirance quand même pour le handball en France. Est-ce que vous justement jugez que c'est un sport majeur ?
Alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire que c'était un sport majeur, mais le problème, c'est que l'équipe de France masculine n'a pas brillé comme elle devait briller. Hein, donc là, on a eu les championnats d'Europe, hein, il y a très peu de temps. Bon, aujourd'hui, on parle de Karabatic, enfin voilà, on parle quand même du handball, mais on a du mal sur après le reste, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de France, après il y a le championnat de D1, et après il y a tout derrière. Et nous, on est sur un championnat où quasiment, là, on est en Ligue 3, hein, on est en National 3 quasiment. On est en ENA, mais c'est quasiment une troisième division. Et là, on a du mal à faire rêver, quoi. Donc, et on est confronté sur les poules de l'Est. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, les poules sur l'Est, hein, comme on a Molsheim, Fauchwiller, on a des équipes qui sont sur le bassin de l'Est, hein, puisqu'on joue quasiment, nous, la Ligue, on joue quasiment par là. On a été tiré au sort l'année dernière, donc on a joué quasiment la poule de l'Est. Et là, il y a des gros budgets. Il y a des gros budgets, on a des budgets plus importants. Nous, on a du mal à attirer des partenaires privés, quoi, hein, des sponsors. Alors, je redisais tout à l'heure, hein, on a quand même des gros aspirateurs, hein, le rugby. Ici, sur la métropole, il y a quand même, vous avez le choix, il y a de la concurrence, hein, entre le rugby féminin, le rugby masculin, avec l'OMR à Villeneuve, les filles du Lille Métropole Rugby à Villeneuve, le MRCV, vous avez après le SBVA. Voilà, donc. Aujourd'hui, je pense qu'il nous manque aussi une arène. Ici, sur la métropole, il nous manque une arène, une salle de spectacle qui servirait en même temps, où on pourrait retrouver le basket et le hand, comme vous trouvez, par exemple, sur Montpellier, comme vous retrouvez sur Lyon, hein, des arénas qui sont où ils ont deux clubs résidents. Donc là, je pense que c'est la prochaine étape.
Justement, là, vous faisiez référence aux équipes de France. Vous avez fait aussi référence auparavant avec les Jeux Olympiques. À quel point les résultats des personnes qu'on voit à la télé lors des grands événements influent sur la volonté des jeunes de se lancer dans ce sport?
Ouais, parce qu'il faut rêver, ils prennent en star, il faut rêver. Hein. Aujourd'hui, c'est comme le foot, hein, avec Mbappé, où aujourd'hui, ça fait rêver les gamins. Aujourd'hui, nous, ici, c'est quand même comme dans tout sport collectif. Hein. Il faut savoir que au niveau des sports collectifs, aujourd'hui, on fait de la transmission, on fait du vivre ensemble. On fait du collectif. Puis pendant que les gamins sont là, ils ne sont pas devant un écran, ou ils ne sont pas devant leur téléphone, ou ils ne sont pas à se masser. Donc aujourd'hui, je pense que le sport collectif, il est très très important dans la vie sociale d'un territoire. Hein, je pense qu'on parle beaucoup, on a eu les frères Martin avec le tennis de table, ça a fait un peu rêver. Mais le sport collectif, vous savez, quand vous avez des gamins qui vont aller jouer à Dunkerque, à Saint-Paul-sur-Mer, à Fourmies, le soir avant, on leur crée de l'adrénaline, quoi. Hein, on crée du championnat, ils sont heureux. Et puis, ils apprennent surtout une vie en collectivité, ce qui est très important. Et puis, on leur donne de la rigueur parce qu'il faut qu'ils soient là à telle heure. Donc voilà. Je pense que aujourd'hui, dans ces sports comme je répète, hein, le sport collectif, on est là pour transmettre de la valeur et du vivre ensemble.
Et en restant sur justement ces jeunes licenciés, on a vu avant les Jeux Olympiques, lors des années qui ont précédé les Jeux Olympiques de Paris, une volonté du gouvernement et des ministres, etc., de mettre vraiment en avant le sport à l'école avec une pratique beaucoup plus régulière du sport à l'école. À quel point le sport à l'école, le PS, peut permettre d'introduire les élèves au handball et ensuite de venir être licenciés ici?
Alors nous déjà, avec la ville de Vinodesk, hein, la ville de Vinodesk est une ville très sportive. Hein, je pense que c'est une des plus grandes villes de la métropole. Hein, Lille est sur le tourisme et la culture, et Villeneuve est vraiment ancrée dans le sport. Hein, on a vraiment un maire et un élu qui a tiré ce phénomène de sport. D'ailleurs, il aime à dire que il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu d'émeute quand il y a eu les émeutes de l'assassinat quand il y a eu le problème avec le gamin, là, et même pour les lois de retraite, quand il y a eu ces émeutes. Donc, il n'y a rien eu. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, quand on transmet, quand on est dans la ville, quand on fait du sport collectif, on transmet des valeurs. Après, les engouements, oui, ils sont là. C'est-à-dire que les jeunes ont envie de faire du sport. Ils ont envie. Donc, beaucoup de jeunes ont envie, mais après, il faut leur donner toujours envie. Il faut toujours les mettre dans la vie, dans le challenge, parce qu'ils ont besoin d'un challenge. Il faut les challenger. Donc, ils ont besoin de challenge, ils ont besoin de performer. Donc ça, parce qu'ils peuvent s'arrêter en cours de saison. Si on ne les fait pas performer, si on leur donne pas des... Voilà, si on leur donne pas... C'est pas une carotte, mais il faut les faire performer aujourd'hui. Donc, et pour les faire performer, il faut les faire rêver. Donc ça, c'est le premier point. Après, en ce qui s'agit du gouvernement, je ne vais pas me faire de copains, mais vous le savez tout comme moi, le gouvernement a supprimé 30% du budget du ministère des Sports. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Enfin, on a du mal à... Aujourd'hui, la région, malgré qu'elle est bien présente, hein, la région est présente, va supprimer, nous retirer 10% de nos aides. pour des restrictions budgétaires, parce que l'État lui impose une restriction budgétaire. Donc aujourd'hui, de taper sur le sport, je ne sais pas si c'est vraiment... s'il faut faire des canons ou s'il faut former des gamins. Voilà, ça c'est ma philosophie. Mais aujourd'hui, oui, non, moi ce que j'ai beaucoup de regrets, c'est qu'une année après les Jeux Olympiques, on tape sur le ministère des Sports, quoi.
Merci à Philippe Delecourt pour cet entretien et d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Lille. Mais avant de passer à la suite, voici un petit interlude musical avec le morceau Puddle of Me de Saya Gray. Après le handball, place à la course à pied, car ce dimanche, une course dans laquelle la solidarité sera mise au premier plan. aura lieu à Villeneuve-d'Ascq. Cette dernière, appelée l'Exaltante, est organisée pour la cinquième fois par l'Association Extraordinaire, une association fondée en 2006 et qui accompagne les familles d'enfants qui sont touchés par un syndrome génétique maladie rare et qui ont pour caractéristique des troubles du neurodéveloppement liés au chromosome X. Camille Stoven, référente nationale de l'association et mère d'une fille atteinte du syndrome DDX3X, a pu nous expliquer les détails de ces syndromes, des thérapies et traitements liés à celle-ci, mais encore de l'accompagnement offert aux familles rejoignant l'association. Bonjour Camille Stoven, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Extraordinaire ?
Oui, bonjour. Effectivement, nous, on est parents d'une jeune fille en situation de handicap et on a rejoint l'association Extraordinaire, qui est une association nationale qui vient en aide aux patients et aux familles qui sont touchés par un syndrome génétique maladie rare lié au chromosome X.
Pouvez-vous nous décrire ces troubles liés au chromosome X et ce que vivent les personnes atteintes de ces maladies ?
Oui, alors il s'agit de troubles neurodéveloppementaux liés à une mutation accidentelle d'un gène porté par le chromosome X. En général, ça engendre une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, parfois un syndrome épileptique, des retards de langage, des troubles moteurs, troubles praxiques, et parfois d'autres difficultés comme des cécités visuelles ou des troubles psychiques.
Et est-ce qu'il existe des traitements ou des thérapies spécifiques contre cette maladie et quels sont les défis médicaux actuels ?
Alors, les syndromes génétiques liés au chromosome X sont des syndromes génétiques comme il pourrait y en avoir sur d'autres paires de chromosomes. Sont des mutations accidentelles. Pour certains syndromes, il y a des thérapies géniques qui sont en cours avec des candidats médicaments, des laboratoires privés ou des laboratoires subventionnés par l'État qui peuvent faire des recherches sur des thérapies géniques. Nous, notre fille, elle est porteuse du syndrome DDX3X. En fait, la force de l'association Extraordinaire, c'est d'être une association plurisyndromique, c'est-à-dire qu'elle réunit plusieurs syndromes génétiques maladies rares liés au chromosome X qui plaident pour des troubles neurodéveloppementaux, mais qui n'ont pas leur propre association, comme il pourrait y avoir l'association X fragile. Le syndrome X fragile étant plus fréquemment représenté et à une occurrence plus élevée, ils ont leur propre association de représentation et leur propre association de famille. La particularité de l'association Extraordinaire et sa force, c'est de représenter plusieurs syndromes et de réunir tous ces syndromes génétiques maladies rares. Le syndrome DDX3X dont est porteuse notre fille est l'un de ces syndromes, et donc moi je suis référente nationale pour l'association au nom de ce syndrome-là. Donc on peut avoir effectivement des protocoles de recherche transversaux qui vont concerner tous les syndromes ou des protocoles de recherche et des protocoles de diagnostic propres à un seul syndrome.
Et justement, comment vous accompagnez les membres de l'association ?
Alors, l'association Extraordinaire, elle a plusieurs vocations. Elle a la vocation, effectivement, de rassembler et de réunir les familles et de venir à leur soutien en proposant des événements et des occasions de rencontres, comme ce sera le cas dimanche avec l'Exaltante, comme ça a été le cas le week-end dernier, le week-end de l'Ascension, avec le week-end biannuel des familles extraordinaires, où on invite tous nos adhérents à se rencontrer et à venir partager un moment de convivialité ensemble. La force de l'association Extraordinaire aussi, c'est d'être en contact avec les centres de recherche et les centres experts pour mobiliser les médecins dans la recherche diagnostique et dans la recherche thérapeutique. On a aussi pour vocation d'organiser des symposiums ou des conférences pour susciter l'émulation et faire un peu état de la recherche et des avancées thérapeutiques. On a aussi pas mal de contacts avec des centres recherche et des centres expertise pour rédiger des protocoles de recherche, rédiger des grilles d'observation, mobiliser des cohortes de patients pour améliorer la recherche et promouvoir cette recherche diagnostique avec les centres experts. On est en rapport avec les filières nationales et internationales comme la filière déficience, la filière handirare ou le réseau Itaca qui est un réseau réseau européen sur les maladies rares et les maladies génétiques. Donc voilà, on intervient dans le soutien aux familles, l'accompagnement des patients, mais également dans les domaines de la recherche et du discours médical, la rédaction aussi de protocoles ou la rédaction de cartes d'urgence pour améliorer la prise en soin des patients.
Et est-ce qu'on peut quantifier à peu près le nombre de personnes qui sont membres de l'association, qui sont suivies, qui sont accompagnées par l'association ?
Oui, aujourd'hui, on accompagne 250 familles adhérentes et on a une chargée de recherche, une salariée de l'association qui est en contact justement avec tous les centres d'expertise maladies rares pour faire connaître l'association et inviter les généticiens ou les médecins qui sont en contact avec les patients et les familles, les aider à se rapprocher de l'association pour avoir des contacts avec d'autres familles et puis surtout des contacts avec les médecins.
Et donc au fil des années, depuis la création de l'association, comment ça a évolué pour elle ? Qu'est-ce que vous proposez en plus, etc.
Alors effectivement, l'association extraordinaire, elle a été créée en 2006 par quatre familles, toutes quatre concernées par des syndromes génétiques maladies rares. Aujourd'hui, on en est à 250 adhérents. On va fêter nos 20 ans l'année prochaine. Cette année, par exemple, se crée au sein de l'association une nouvelle commission pour les syndromes isolés, les syndromes qu'on appelle orphelins, qui ne sont aujourd'hui représentés que par une seule famille ou qui ne concernent qu'une seule famille dans l'association, pour leur permettre d'être en contact avec d'autres familles qui auraient la même symptomatologie et les mêmes préoccupations au quotidien, on a décidé de créer cette commission des maladies orphelines. Voilà, l'association extraordinaire grandit et puis se renouvelle chaque année par la force de proposition de ses adhérents bénévoles et par les partenariats qui peuvent se faire avec les centres d'expertise maladies rares et avec les filières nationales sur les maladies rares. Ouais.
Et justement, concernant le nom de cette association extraordinaire, on voit le jeu de mots avec le chromosome X justement au début du mot. Pourquoi ce nom et en quoi les membres ou les personnes touchées par ces maladies sont extraordinaires, justement.
Ouais. Alors effectivement, le nom a été bien trouvé parce qu'on a le logo du chromosome X en initiale du mot. Et effectivement, on parle de personnes extraordinaires parce que elles sont hors de l'ordinaire, hors du commun, hors de la norme. Et ce sont aussi des patients extraordinaires et des enfants extraordinaires parce qu'en fait, c'est des rayons de soleil, c'est des enfants qui sont, enfin, ou des patients, même à l'âge adulte, qui restent dans le plaisir et la joie de la vie, dans l'instantanéité. C'est très porteur et on trouvait que le nom était quand même source d'espoir et portait un joli regard sur le handicap.
Merci à Camille Stoven pour ces informations avant le départ de la 5e édition de l'Exaltant de ce dimanche. C'est la fin de ce magazine du mercredi 11 juin sur le thème du sport et de la santé. Nous vous retrouvons mercredi prochain, toujours sur les ondes de Radio Campus Lille, pour un nouveau Villeneuve Mag, votre magazine qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Et on se quitte avec Orange Vine, un morceau de l'artiste Black Odyssey. Bonne fin de journée à vous. Yeah.